Il y a bien longtemps, l'école du village était un des bâtiments les plus importants avec l'église. La carte de France s'imposait avec force sur le mur de la classe, sur les classes de toutes les écoles de France. Les enfants apprenaient qu'ils descendaient des Gaulois, qu'ils faisaient partie de la grande Europe et d'un pays prestigieux qui exigeait d'eux le sacrifice suprême, le sacrifice même de leur vie. La liste de ceux qui étaient morts sur le champ d'honneur, où figurait un des membres de leur famille, leur faisait prendre conscience de façon intuitive que tout ce qui constituait leur vie relevait de la géographie et de l'histoire. Ces deux sciences expliquant les drames de leur famille. Dès l'été 1914 au moins, ils entendaient parler dans le Couserans de l'Autriche-Hongrie, de l'Allemagne, des Balkans, de la Russie, de la Prusse. Ils en avaient entendu parler durant les cours de géographie. Il y avait aussi l'Alsace et la Lorraine arrachées à la France au terme de la guerre contre les Prussiens. De ces deux provinces, ils en entendaient parler lors des cours d'instruction civique et lors des cours d'instruction patriotique. Je me souviens des paroles graves, des yeux brillants de ma grand-mère évoquant le calvaire de son mari ayant reçu en 1917, sur le chemin des Dames, un éclat d'obus dans le maxillaire. L'impact de ce projectile, inopérable à l'époque, lui ayant provoqué à vie des troubles graves de la déglutition. Avec des tremblements dans la voix, elle revoyait les journées ponctuées par le tocsin et les longs recueillements à l'église du village, à l'annonce du sacrifice de chaque villageois tué au front. Ces grands moments de détresse, d'angoisse, restèrent indélébilement inscrits dans la mémoire de ces femmes, toutes de noir vêtues. Il en résulta chez elles un sentiment de résignation devant le sens du tragique de la vie. Les noms de Verdun, de la Marne, de la Meuse, du chemin des Dames évoquaient pour elles ces grosses émotions qui étreignaient les hommes et les femmes et leur faisaient pousser souvent des cris de détresse. Imaginons ces jeunes femmes ou ces vieilles aux yeux remplis de larmes et au visage se creusant prématurément de rides d'expression. Comment ne pas évoquer les récits de ces hommes ayant connu les drames de la Grande Guerre. Dans leur narration, ils parlaient avec compunction des villages de l'Est, de la France écrasée sous les bombes et des petits matins ensoleillés de printemps où les trilles des oiseaux les ramenaient vers leur petit village du Couserans, lové dans un écrin de verdure et entouré de montagnes. La famille, les montagnes et les troupeaux abandonnés restaient pour eux une blessure psychique indélébile, presque un sentiment de culpabilité. Il y avait ce cher Joseph Danouret qui, les jours de pluie, de vent et de neige, portait avec fierté sa capote militaire qu'on lui avait distribuée avant le départ pour la campagne du Syrie. Il évoquait son transport à bateau, les caractéristiques des pays traversés, les déserts écrasés par une chaleur torride, inhumaine. Il faisait à son insu de l'histoire et de la géographie. Lorsqu'il abordait son interminable voyage en 1920 vers la Syrie en guerre contre la France, il parlait du tangage du bateau, de la vision de ses camarades vomissant sur le pont et de ses infinies campagnes écrasées sous un soleil de plomb. Il portait avec abnégation le lourd sac à dos et tout le paquetage réglementaire. Il ne se doutait pas de la situation géopolitique de ce pays situé depuis la nuit des temps au carrefour des influences méditerranéennes et du monde arabe. Il faisait de la géographie sans le savoir. Pourtant, le récit de son entrée à Damas, écrasé dans une véritable fournaise, faisait couler une larme discrète, vite esquissée d'un geste furtif de la main. Joseph Danouret avait quitté son village, sa famille, pour la dure vie militaire qui lui fut imposée. Il vécut avec résignation la promiscuité d'une longue traversée maritime, lui qui n'était rassuré que par la présence de ses estives, de l'Ésurs, de Casabed et de Tariol. Il acceptait la condition tragique de son existence, animé malgré lui du désir de continuer à vivre avec opiniâtreté. Cette acceptation de la fatalité le poussait à la mélancolie de sa jeunesse, mais très souvent à la galéjade, agrémenté d'un clin d'œil complice qu'il faisait lorsqu'il abordait certains aspects de sa vie de soldat. À son retour au village, il se retrouva sans femme, avec pour seule compagne les vaches et ces montagnes qu'il respectait tout en les redoutant. Sa vie se trouvait dans cette civilisation montagnarde qu'il avait toujours vécu près de ses parents, et il faisait de la géographie sans s'en apercevoir. Pour Charles Ferdinand Ramu, être paysan, ce n'est pas un métier, c'est un état, c'était un état, c'est-à-dire une chose qui dure, qui semble toujours avoir existé, une chose dont on ne peut sortir. Et Charles Ferdinand Ramus de dire « car tu ne concevais pas que le soleil dût changer, ni qu'il eût jamais changé », fin de citation de Charles Ferdinand Ramus. Et pourtant, Joseph Danoret ressentait le besoin pressant de parler de la Syrie écrasée sous un soleil de plomb, sans forcément faire la liaison avec la géographie, les ressources pétrolières et les enjeux stratégiques du Moyen-Orient de l'époque. De même, du fond des vallées du Biros, du Massatois, du Haut-Salat, ils partirent en 1870, en 1914, en 1939 pour la guerre d'Indochine, pour la guerre d'Algérie, sans avoir conscience qu'ils étaient victimes de la géographie morphologique, humaine, économique. Ils endossaient la tenue militaire sans se poser ces questions si essentielles pourtant. Ces hommes, ces femmes, pris dans la tourmente d'enjeux qui les dépassaient, n'oublièrent jamais ces périodes de conflit qui bouleversèrent leur vie. Sans le savoir et de façon intuitive, ils illustraient le magnifique livre d'Yves Lacoste, « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ». La géographie, donc, je répète, « ça sert d'abord à faire la guerre », c'est un livre de Yves Lacoste. Faire la guerre représentait un défi pour nourrir ces millions d'hommes. Il fallait mettre en branle toute une industrie. Les blés, les fourrages, les animaux furent réquisitionnés. Pensons à tous ces chevaux habitués au calme et à la quiétude des champs, des travaux agricoles, massés subitement à Oust, à Massat, Saint-Géron, Sainte-Croix, Saint-Dizier. Pensez à ces chevaux affolés, hennissant interminablement, laissés sur place pendant des jours, parfois sans fourrage ni eau. Pour eux, aussi pour ces animaux, pour ces chevaux, l'horreur de la guerre allait les prendre dans son étau. Relisons les récits de guerre de Genevoix de Junger afin de vous replonger dans l'enfer que vécurent ces chevaux. Il faut cependant dire que la géographie explique les différences de statut des paysans en fonction de leur résidence en montagne, en plaine, dans les villes. Mais tous, sur le front, dans les tranchées, parlaient de géographie, car ils évoquaient avec nostalgie leur village, avec leur spécialité culinaire, leur langue maternelle, comme chez nous le gascon. C'était la France des villages, des terroirs, des chansons, du pays, des clochers, de leur église, de leur montagne. Mais la guerre, c'est aussi la possibilité de jouir de la morphologie du terrain. Pensons à ces femmes face à cette nature déployant des terrains de labour devenus immenses faute de bras. À ces bois, à ce bois qu'il fallait rentrer et qu'on n'avait pas le temps de rentrer car il n'y avait plus de temps disponible, il y a trop de travail. En 1976, Yves Lacoste, toujours dans son livre « La géographie, ça sert à faire la guerre », remarquez que les guerres de partisans engageant l'occupation se déroulèrent en fonction des caractéristiques morphologiques et géologiques des lieux. Bref, dans des régions particulières marquées par leur morphologie. Yves Lacoste, créateur de la revue Hérodote, affirme que la géographie ne concerne pas que les géographes, mais tous les humains qui prirent conscience malgré eux du redoutable instrument de puissance qu'est la géographie pour ceux qui ont le pouvoir. Mes chers amis, voici un petit livre à relire. La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, de Yves Lacoste. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.